Deutsche Welle, le journal. Fréjus Kenom.
Bonsoir à tous, il est 17h en temps universel et 19h à Bonn. Bienvenue à l'écoute du programme francophone de la Deutsche Welle, la radio internationale d'Allemagne. Au sommaire de nos informations du soir, la République démocratique du Congo, de nouvelles nominations et affectations dans l'appareil de sécurité. On note surtout que le patron des armées devient chef de la police nationale dans un contexte d'insécurité généralisée. Adama Barrow, déjà 6 mois au pouvoir en Gambie, que s'est-il passé jusqu'ici dans la Nouvelle-Gambie? Des Sénégalais interrogés ont plutôt l'air déçus.
On a constaté qu'il y a des vols à main armée.
Ce qu'il y a aujourd'hui, s'il y a danger, c'est à l'interne, dans la manière de gérer un État.
Des explications à suivre dans ce journal. Et puis, suite à l'interpellation de Eli Kamano, un célèbre chanteur guinéen qui a critiqué le président Condé, nous parlons de ces chanteurs dont l'engagement leur attire diverses aventures. Voilà, c'était les principaux titres de ce journal, mais pour tout commencer, voici un tour de l'actualité internationale sous la conduite de Carole Assignon. Bonsoir Carole.
Bonsoir Fréjus, bonsoir à tous.
Les États-Unis annoncent de nouvelles sanctions contre l'Iran.
Oui, Washington entend ainsi punir Téhéran pour ses missiles balistiques et ses activités militaires qu'il considère pernicieuses au Moyen-Orient. Ces sanctions de nature économique et juridique concernent 18 personnes et entités liées au programme de missiles balistiques iraniens et au corps des gardiens de la révolution armée d'élite de la République islamique. Les États-Unis maintiennent toutefois l'accord sur le nucléaire iranien signé à Vienne le 14 juillet 2015.
Et on vient juste de l'apprendre, l'Iran condamne les nouvelles sanctions américaines contre son programme balistique. Le gouvernement vénézuélien maintient le projet de constituante. Carole.
Ceci malgré les menaces de mesures économiques fortes du président des États-Unis Donald Trump contre Caracas. Selon le chef de la diplomatie vénézuélienne, je cite, « Rien ne pourra arrêter le projet de constituante. » Si Donald Trump ne précise pas les mesures économiques qu'il compte en prendre, et il n'a pas manqué de qualifier le président Nicolas Maduro de mauvais dirigeant rêvant de devenir dictateur. Le président américain a appelé à la tenue d'élections justes et libres et a assuré que les États-Unis se tiennent aux côtés du peuple vénézuélien dans sa quête pour ramener son pays vers une démocratie totale et prospère. Cette montée de tension entre Washington et Caracas intervient 2 jours après le succès de la consultation symbolique de l'opposition vénézuélienne qui a vu plus de 7 millions de personnes se prononcer pour le retrait de l'Assemblée constituante voulue par le chef de l'État socialiste.
Berlin condamne le placement en détention en Turquie d'un défenseur des droits de l'homme allemand.
Nous sommes solidaires avec Peter Stöttner, dont la détention est injustifiée, œuvrons à tous les niveaux pour le soutenir. C'est en ces termes que Stefan Seibert, le porte-parole de la chancelière Angela Merkel, a réagi sur Twitter. La chancelière a pour sa part jugé cette incarcération totalement injustifiée. Peter Stöttner est détenu aux côtés de plusieurs autres militants, dont la directrice d'Amnesty International en Turquie. On en reparle dans le courant du journal.
Bien sûr. Et puis en Syrie, des combats entre rebelles et forces kurdes font des victimes.
Oui, selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme, 15 rebelles ont été tués dans des combats ayant éclaté lundi et qui se poursuivent ce mardi dans le nord de la Syrie. Des factions rebelles syriennes soutenues par la Turquie tentent de prendre le village d'Ain Dakhna, situé dans la province d'Alep. Le village est actuellement contrôlé par les forces démocratiques syriennes dominées par les Kurdes qui luttent principalement contre le groupe djihadiste État islamique en Syrie avec l'appui de la coalition internationale dirigée par les États-Unis.
Et les autorités séparatistes l'Est de l'Ukraine, opposées au pouvoir de Kiev, veulent créer un nouvel État.
Une constitution du futur État a été présentée ce mardi par le dirigeant de la République rebelle de Donetsk, Alexandre Zakharchenko. D'après le projet, ce nouveau pays serait formé à la suite d'un référendum organisé dans toute l'Ukraine et baptisé Malorossia ou Petite Russie. Il engloberait l'Ukraine actuelle sans la Crimée, annexée en mars 2014 par la Russie. La capitale du nouvel État serait Donetsk, l'un des bastions des séparatistes, tandis que Kiev n'aurait que le statut de centre historique et culturel. Et puis toujours au sujet de l'Ukraine, le président Petro Porochenko et son homologue géorgien Georgi Margvelashvili ont annoncé ce mardi leur intention d'œuvrer ensemble pour rejoindre l'OTAN et l'Union européenne face à la Russie, considérée comme une menace.
17h, bientôt 5 minutes en temps universel. Merci Carole Assignon pour le bulletin d'information. « Une série de nominations au sein de l'appareil sécuritaire congolais pourrait illustrer une reprise en main musclée des manettes du pouvoir par le président Joseph Kabila. L'ancien chef d'état-major adjoint de l'armée, le général Dieudonné Amouli, a été nommé commissaire général de la police nationale congolaise. Changement aussi au niveau des commandements de la police à Kinshasa, la capitale, mais aussi dans les provinces de l'Est en proie à l'insécurité. Alors, Fiakrandaï Ragije, vous êtes dans ce studio avec nous. Ces nominations illustrent apparemment une crispation au niveau du pouvoir.
Oui, notamment pour faire face à une situation sécuritaire extrêmement précaire dans le pays. Les affrontements entre forces de l'ordre congolaises et les groupes armés, dont les Mai Mai et bien d'autres, sont régulièrement signalés, notamment dans le nord et sud Kivu et dans la province voisine d'Ituri. Une situation qui provoque une psychose générale au sein des populations, nous a expliqué un habitant de Beni qui a requis l'anonymat. Il nous a ainsi expliqué que des hommes armés se seraient ainsi introduits. C'était dimanche soir dans un couvent et aurait kidnappé deux prêtres à Bunyuka.
Et donc ce réaménagement ne laisse pas les Congolais sans réaction.
Oui, c'est le contrôle de cet appareil policier, explique de son côté le politologue congolais Alfred Chango.
Une manière de reprise en main de l'appareil sécuritaire, en tout cas au niveau policier, et le changement des hommes qui interviennent montre effectivement qu'il y a, suite à cette insécurité grandissante qu'on rencontre à travers tout le pays, et notamment à Kinshasa, l'assassinat de l'administratrice du grand marché de Kinshasa et de ses gardes du corps. Tout cela montre effectivement qu'il y a une inquiétude sérieuse de la part des autorités de RD Congo.
Et puisque la crise congolaise est profondément politique, ajoute de son côté Gilbert Kambale de la société civile à Beni, il faut inévitablement plus de démarches politiques que militaires.
Comme les autorités en place, toutes les institutions sont illégitimes, alors cela crée une sorte, n'est-ce pas, de rébellion vis-à-vis des anciens groupes armés qui n'étaient plus là, mais qui ressuscitent aujourd'hui. Et ils brandissent cela comme cause, certains groupes armés pratiquement. Vous avez entendu parler de MNR, tout ça, et même Yakutumba vers les sites qui vous là, et nous tous disent non, nous voulons libérer le pays.
Il faut dire qu'outre les provinces du centre et de l'est du pays, touchées par les attaques des groupes armés, Kinshasa a elle aussi été dernièrement frappée par une attaque d'hommes armés. C'était au marché central, l'administratif et le chef de police du marché ont succombé sur le coup, selon du moins les sources officielles.
Et toujours en République démocratique du Congo, une mutinerie a été signalée aujourd'hui dans une prison du sud de Kivu. Une prison exposée à une situation de surpopulation carcérale, selon nos informations. Des affrontements entre des détenus et les forces de l'ordre ont blessé 4 prisonniers qui tentaient de s'évader lors de cette altercation. La direction de l'agence congolaise de presse a, quant à elle, interdit à ses journalistes de couvrir, sous peine de révocation, les activités organisées par l'ambassade de Belgique à Kinshasa à l'occasion de la fête nationale de Belgique. Une fête prévue le 21 juillet prochain. Les employés, les journalistes qui participeraient à la couverture de cet événement s'exposeraient à une expulsion pure et simple de l'agence, selon le communiqué diffusé au sein donc de l'agence congolaise de presse. Vous écoutez Radio Deutsche Welle, nous jetons un clin d'œil maintenant, un regard sur les réseaux sociaux. Alors Mireille Drone, bonsoir.
Bonsoir Fréjus, bonsoir à tous.
Vous nous emmenez au Mali ce soir, le Mali où le gouvernement et les groupes armés signataires de l'accord de paix se sont mis d'accord pour mettre sur pied une stratégie de développement pour le nord du pays, ce qui fait réagir les internautes.
Oui, précisons d'abord que cette stratégie s'articule autour de 3 axes. L'amélioration de la gouvernance, l'accès aux services sociaux de base et le renforcement des infrastructures ou la vitalité économique des régions du Nord. Un projet qui nécessite plus de 2 milliards de francs CFA, dont seuls 10% sont 2 000 milliards de francs CFA, dont seuls 10% sont financés pour l'instant. Mais à vrai dire, cela ne semble pas convaincre certains Maliens comme Ousmane de Bamako. N'importe quoi, écrit-il, œuvrer pour le développement des régions du Nord ne signifie pas favoriser les régions du Nord sur celles du Sud, proteste-t-il. toutes les régions ont besoin d'infrastructures de base, notamment de routes pour le désenclavement, un accès direct aux soins à travers la mise en place de centres de santé de référence, des ponts, des aéroports, écoles et des terres bien cultivées et surtout un accès courant à l'eau et l'électricité. Et selon Ousmane, toutes les régions doivent s'impliquer pour faciliter la mise en place de cette initiative et participer aussi modestement que cela est possible au financement de ces projets. Parce que nul ne pourra continuer à dormir et ne compter que sur l'État. Boubacar, dans le Nord Mali, pense, lui, qu'il ne s'agit là que de folklore.
Non, notre priorité aujourd'hui, les régions du Nord, c'est la sécurisation des personnes et de leurs biens. Chose qui n'est pas encore faite aujourd'hui. On n'est pas libre de circuler, même au sein d'une ville, à plus forte raison, rallier une ville à une autre ville. Donc ces choses-là nous poussent vraiment à ne pas croire à ce jeu.
En revanche, Saliou du Bénin pense que c'est une très bonne démarche car les populations du Nord se sentiront prises en compte par l'État central. Le problème, reconnaît-il, c'est que le gouvernement ne contrôle pas tout le pays. Il sera donc pas facile d'investir dans les zones de Kidal, par exemple, où les groupes armés ont chassé l'administration, selon lui. Et Bernard de Lomé au Togo trouve que c'est une bonne chose. Encore faut-il que le gouvernement gère bien ses fonds pour éviter les détournements.
Mireille Drone, merci. Et dans l'actualité en Afrique de l'Ouest encore, sachez qu'au Niger, un journaliste d'une chaîne de télévision indépendante, Baba Alpha, et son père ont été condamnés aujourd'hui à 2 ans de prison. Il est accusé d'avoir usurpé, le journaliste, la nationalité nigérienne. Selon la presse, Baba Alpha serait de nationalité malienne et aurait acquis la nationalité nigérienne de manière irrégulière, ce que dément son avocat qui annonce vouloir faire appel. Et puis, en Côte d'Ivoire, le procureur du tribunal d'Abidjan a requis 10 ans de prison contre Assoua Adou, un ancien ministre de l'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo. Monsieur Assoua Adou était jugé devant une cour d'assises pour atteinte à la sûreté. Il a été arrêté en janvier 2015. Notez aussi que Mohamed Ibn Chambas, le représentant spécial du secrétaire général et chef du bureau des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel, est annoncé aujourd'hui 18 juillet à Abidjan en Côte d'Ivoire pour une visite officielle de 2 jours. Cette visite s'inscrit dans le cadre de la poursuite du soutien des Nations Unies après la fin du mandat de l'opération des Nations Unies en Côte d'Ivoire le 30 juin dernier.
Deutsche Welle à Bamako sur Radio Clédou 101.2.
Rarement une élection n'a suscité autant d'espoir sur le continent africain que celle de Adama Barrow à la tête de la Gambie au mois de décembre dernier. Après 22 ans de gestion très critiquée de Yahya Jammeh, les citoyens gambiens ont perçu cette élection comme une libération. Mais 6 mois plus tard, à l'exception notable de la liberté d'expression, les autres changements escomptés tardent à prendre forme. Certains acquis seraient même en train de s'effriter. On écoute les explications de Mamadou Alpha Diallo, notre correspondant à Ziguinchor, une région voisine de la Gambie.
La nouvelle Gambie que le nouveau président gambien Adama Barrow avait promise à son peuple il y a 6 mois quand il s'installait à la tête du pays reste encore un rêve. En dehors de la liberté d'opinion, rien de significatif n'a changé dans le pays. C'est du moins le constat fait par bon nombre d'observateurs comme Amadou Halil Djemme, un journaliste enseignant.
Certes, il y a la liberté qui est revenue, surtout la liberté d'expression, qui en tout cas était absente en Gambie avec le règne de Yahya et Yahya Jammeh. Mais il y a justement l'économie gambienne qui est en souffrance.
Malamine Bodian, un autre observateur, note pour sa part un certain recul par rapport à beaucoup d'acquis obtenus du temps de Yahya Jammeh et notamment sur le plan sécuritaire.
Les 6 premiers mois de Adama Barrow à la tête de la République de la Gambie, ce n'est pas des changements vraiment notoires parce que les gens s'attendaient dans plusieurs domaines des changements, mais au contraire, on a constaté que les choses qu'on avait oubliées sont en train de revenir. On a constaté qu'il y a des vols à main armée. On a constaté aussi la vente et la consommation de la drogue qui est en train de prendre une ampleur inquiétante.
S'exprimant sur le sujet lié à une éventuelle menace du régime de Barrow par les anciens soldats fidèles à Yahya Jammeh, évoqué récemment par les nouveaux gouvernants gambiens, le professeur Amadou Fall, chercheur et spécialiste de la géopolitique en Afrique, rejette cette thèse d'un revers de main.
Nous rejetons totalement cette hypothèse d'une menace des anciens partisans de Yahya Jammeh. Non, ce qu'il y a aujourd'hui, s'il y a danger, c'est à l'interne, dans la manière de gérer un État. L'inexpérience justement des hommes qui sont arrivés au pouvoir en Gambie.
A signaler que le président Yahya Jammeh, contraint de quitter le pouvoir par les troupes de la CEDEAO au lendemain de l'élection présidentielle controversée de décembre dernier, vit en exil en Guinée équatoriale. Mamadou Alpha Diallo, Agiguen Sor pour la Deswelle.
Et le président Adama Barrow de Gambie avait prêté serment, vous vous souvenez, au Sénégal le 19 janvier dernier. Au Sénégal, où un an après le lancement d'une vaste opération pour retirer des rues les quelques 50 000 enfants mendiants, les talibés, l'initiative a échoué. Ces enfants, essentiellement des pensionnaires d'écoles coraniques, occupent toujours la rue. Le point avec notre correspondant à Dakar, Mamadou Lamine Ba.
Leurs voix sont encore perceptibles dans les rues des grandes villes sénégalaises. Aux arrêts bus, au feu et devant certaines banques, les enfants tendent encore la main toute la journée durant. Parmi eux, des écoliers coraniques. Baïcher Top est l'un d'eux. Il a déserté son école et passe la nuit dans la rue.
Mon maître me frappait parce que je n'avais pas mémorisé ma leçon. Un jour, j'ai fui jusqu'à Thiès. De là, j'ai été acheminé ici.
Comme lui, Ibrahima Diallo, originaire de la Guinée-Bissau, a fui son école pour échapper à la violence.
Chaque jour, on nous frappait si on ne réunissait pas le montant demandé par le maître. Et on n'avait rien. Même pour manger, on le commandait.
Il y a un an, l'État du Sénégal a initié le retrait de ses enfants de la rue. Deux semaines après, les enfants ont réapparu dans les artères du pays. À l'Empire des enfants, on pointe du doigt la démarche de l'État. Alassane Diagne est le coordonnateur de ce centre d'accueil des enfants de la rue.
Nous pensons que les principaux acteurs de la protection de l'enfance auraient dû être consultés pour définir ensemble la stratégie et la méthode qui allait être adoptée pour pouvoir retirer les enfants de la rue. Donc nous pensons que c'est le facteur principal de l'échec de cette initiative.
Mohamedou Bansourdia, sociologue, avance des raisons culturelles de cet échec.
Le fait, c'est que la mendicité jusqu'à présent, ça existe parce que tout simplement, on a l'impression qu'elle est tolérée par la population sénégalaise de manière générale. Donc c'est un état de fait. Raison pour laquelle l'État devrait revoir sa méthode de lutte contre ces pratiques-là.
Au Sénégal, la mendicité est un crime dans les textes, mais entre l'état de droit et l'état de fait, le pays marche encore avec le second. Conséquence, talibés, enfants perdus et ceux issus de ruptures familiales investissent la rue au quotidien. Mamadou Lamine Ba, à Dakar, pour la Deutsche Welle.
Vous écoutez la Deutsche Welle.
Et il est 19h17 dans nos studios et d'après nos informations, Eli Kamano est toujours en garde à vue. Le musicien de reggae guinéen, connu comme l'un des artistes les plus virulents contre le régime de Alpha Condé, a été arrêté hier. Le chanteur avait prévu de manifester pour réclamer la tenue immédiate des élections. L'arrestation a eu lieu pendant une manifestation interdite par le gouvernorat de la ville de Conakry. Cette énième arrestation d'un artiste engagé nous amène à faire le point sur ses musiciens qui critiquent les pouvoirs politiques en Afrique. Les explications de Nafissa Amadou.
Des cas semblables à Eli Kamano, il y en a beaucoup en Afrique. Des artistes qui dénoncent la gestion du pouvoir dans leur pays. Didi Awadi au Sénégal, Kaïdan Gaskia au Niger, Master Soumi au Mali, Kadia Nin au Burundi ou encore Smoky au Burkina Faso. Ces artistes sont pour la majorité en froid avec le pouvoir qui les considère comme des opposants. Au grand regret de Oumar Issoufou, connu sous le nom d'artiste de Fenobi du groupe Kaïdan Gaskia, les piliers de la vérité au Niger.
C'est toujours ça en fait, l'Afrique, quand un parti politique ou quand un politicien est au pouvoir, quand il le dénonce, il pense toujours que c'est l'opposant. Donc du coup, le politicien, il n'est jamais honnête avec lui-même. Ça fait que tout ce que tu fais, il va penser que c'est l'opposant qui te pousse. Pour eux, l'artiste africain ne doit pas être regardant, ne doit pas être tranchant, ne doit pas être l'avocat de ceux qui n'ont pas de bouche, quoi. Mais arrêter un artiste ne veut pas dire que le combat pour lequel tu l'arrêtes, que le combat est fini. Tu l'arrêtes en ce temps même que tu vas lui donner du pouvoir et aussi pousser les autres à le soutenir.
À l'inverse, on trouve également de plus en plus d'artistes très connus qui chantent les louanges des gouvernants. Théodore Bamogo, alias Bamos, président de l'Amicale des artistes musiciens du Burkina, rappelle ainsi que l'artiste doit rester neutre.
Moi, je les mets dans le lot des artistes griots. Et je ne les en veux pas. Chacun fait de sa carrière ce qu'il veut. C'est des raccourcis aussi, mais c'est un choix. Mais la mission exacte de l'artiste, c'est de ne pas prendre parti. C'est éveiller les consciences dans le bon sens. C'est dire la vérité dans le respect. Contribuer à construire son peuple, le pays.
Des chanteurs comme Héritier Watanabe et Fally Ipupa, tous deux Congolais, ont vu récemment leur concert annulé à Paris après une manifestation d'opposants anti-Kabila. Les deux sont considérés comme un soutien du pouvoir.
Et nous partons maintenant au Cameroun. La mort de Mgr Jean-Marie Benoît Bala, qui officiait à Bafia dans le centre du pays et dont le corps a été repêché dans une rivière début juin, fait polémique. Les autorités parlent de noyade, mais les évêques camerounais veulent porter plainte contre Inks pour assassinat, alors que le corps porte des marques de violence selon l'Église catholique. Plusieurs religieux ont d'ailleurs été assassinés au Cameroun par le passé. Mireille Drone, vous avez recueilli des réactions à ce sujet sur les réseaux sociaux.
Oui, et la méfiance règne. Il se dit en coulisses que le régime est à l'origine de ce crime, nous rapporte Ibrahim de Douala via WhatsApp. Mais un autre internaute se veut, lui, plus prudent. Le corps de Mgr Jean-Marie Bala a été retrouvé dans l'eau. Certains disent qu'il s'est noyé, mais d'autres affirment qu'il a été torturé, nous écrit Adam de Ngaoundéré. Et comme cette histoire est un peu floue, eh bien, il préfère attendre les résultats de l'autopsie pour connaître la cause exacte de sa mort.
Et donc, d'autres réclament d'ores et déjà que justice soit faite, Mireille.
Oui, Yves de Dakar, par exemple, affirme que le Cameroun est coutumier des faits lorsqu'il s'agit de crimes non élucidés. Celui-ci est de trop, proteste-t-il, et il demande que la justice protège mieux les populations en général, mais surtout les prêtres, magistrats et organisations des droits de l'homme. Albéric de Boutembo, dans l'est de la RDC, pense aussi qu'il faut que la justice se fasse, parce que les serviteurs de Dieu sont tués dans de nombreux pays comme des bêtes, alors ces criminels doivent être identifiés et condamnés, écrit-il. Il faut dire qu'en RDC, les enlèvements sont courants dans l'est du pays, où des conflits intercommunautaires font rage. Deux prêtres du diocèse de Beni Boutembo ont d'ailleurs été enlevés dans la nuit de dimanche à lundi par des miliciens non encore identifiés. Et David de Goma, dans l'est de la RDC aussi, estime, lui, que quand ils deviennent des obstacles pour le régime, c'est la seule façon de les écarter. C'est ce dont ceux de la conférence épiscopale et ceux de Beni sont victimes, affirme-t-il. Et puis, ferait juste un tout petit mot de la part de Lamran de New York, qui nous rappelle que c'est aujourd'hui, comme le 18 juillet de chaque année, la journée internationale Nelson Mandela, et en même temps qu'il est impératif de bâtir la paix partout dans le monde, comme Madiba s'était attaché à le faire.
Merci pour l'info, Mireille. Et au pays de Nelson Mandela, l'actualité, c'est que l'ancien ministre sud-africain des Finances, Pravin Gordhan, un ardent pourfendeur de la corruption qui avait été limogé fin mars, a demandé aujourd'hui, pour la première fois, la démission du président Jacob Zuma, empêtré dans une série de scandales politico-financiers. Et puis notez encore que les élections législatives gabonaises qui devaient se tenir avant le 29 juillet prochain, après un premier report, ont été de nouveau repoussées au plus tard à avril 2018. Information de l'agence France Presse. Sur la Deutsche Welle, nos magazines dans la seconde demi-heure de ce journal. D'abord le magazine Droits et Libertés de Sandrine Blanchard qui nous emmène cette semaine dans le Rif marocain en plein trouble sociaux. Et à 12h42, temps universel, Aude Gensbittel nous donne rendez-vous avec le magazine Pulsation avec au menu entre autres du cinéma ivoirien et de la musique nord-allemande. Ne ratez pas ces rendez-vous, c'est tout à l'heure à partir de 17h30, temps universel. Mais en attendant la Turquie, la chasse aux opposants continue. Après les militaires, policiers, universitaires, les membres d'ONG sont maintenant directement visés. Un tribunal d'Istanbul a ordonné aujourd'hui le placement en détention de 6 militants des droits de l'homme. Plus d'un an après la tentative de coup d'État, le pouvoir turc semble maintenant s'attaquer directement aux défenseurs des droits humains. Les précisions de Hugo Flotatalon.
L'affaire commence le 5 juillet dernier. À l'époque, 10 personnes sont arrêtées sur une île au large d'Istanbul pendant un atelier de formation. Il y a des Turcs évidemment, mais aussi un Suédois et un Allemand. Leur point commun, tous travaillent dans le domaine des droits de l'homme. Et ils sont accusés publiquement par le président en personne, Recep Tayyip Erdogan, de mener des activités dans la continuité du putsch de l'an dernier. Ce seraient des ennemis du pouvoir. Ce mardi, le tribunal leur reproche même des activités présumées très graves, comme le raconte une de leurs soutiens, l'avocate turque Merik Eypoglu.
Il parle d'une organisation terroriste. L'accusation porte sur le fait d'avoir aidé cette organisation terroriste sans en être membre. Alors on a demandé quelle organisation. Ils sont incapables de donner une réponse.
Parmi les personnes emprisonnées, il y a Idil Ezer, directrice d'Amnesty International pour la Turquie. Des membres de la Coalition des femmes et de la Fondation des droits de l'homme sont aussi mis en prison et en attente d'un procès. Des personnes qui n'auraient rien à se reprocher, mais auraient été arrêtées justement à cause de leur fonction, accuse Marie Lucas, expert de la Turquie pour Amnesty International en Allemagne.
C'est maintenant clair que les personnes qui défendent les droits de l'homme en Turquie sont emprisonnées. Eux, tout spécialement. C'est un très mauvais signe pour la suite des choses en Turquie.
Une aggravation de la situation que craignent aussi les partenaires d'Ankara. La chancelière allemande Angela Merkel a ainsi déclaré que l'arrestation de l'activiste allemand était absolument injustifiée. Magdalena Freundschuss, l'épouse du formateur allemand Peter Steudner, qui fait partie des personnes interpellées pendant l'atelier de formation, estime qu'il est urgent d'agir.
Il n'y aurait pas de lien particulier entre le chargé de projet de l'atelier et les arrestations. Mais avant tout, on arrête les gens, pas tous, mais on arrête des gens qui travaillent pour défendre les droits de l'homme en Turquie, des gens qui travaillent pour leur société.
En Allemagne, le chef des sociaux-démocrates et candidat à la chancellerie, Martin Schulz, a employé des mots encore plus durs. Le président turc est en train de dissoudre l'état de droit et la démocratie, a-t-il expliqué dans la presse. En attendant, les militants des droits de l'homme restent en prison en Turquie, sans même avoir de date pour un éventuel procès.
17h, bientôt 26 minutes en temps universel, c'est l'heure de la revue de la presse. Aujourd'hui, les journaux allemands s'intéressent au Brexit et aux relations de plus en plus tendues entre la Turquie et l'Allemagne. Carole Assillon.
Oui, l'histoire récente des relations germano-turques est marquée par un nouveau chapitre désagréable. La pomme de discorde entre les deux pays est cette fois-ci cognée à la base de l'OTAN en Turquie. Selon la Süddeutsche Zeitung, toute personne qui a suivi le débat sur le retrait allemand de la base d'Incirlik doit reconnaître le modèle. Encore une fois, la Turquie a refusé, du moins temporairement, une nouvelle visite de députés allemands à des soldats de la Bundeswehr stationnés sur son sol. Raison évoquée par Ankara, la détérioration des relations bilatérales avec Berlin depuis le coup d'État manqué contre le président turc Recep Tayyip Erdogan le 15 juillet 2016. Rappelons que les députés ont l'obligation légale de visiter les soldats, l'armée allemande étant étroitement contrôlée par la Chambre des députés. Concernant ce qu'on peut appeler le dossier Konya, Der Spiegel précise qu'Ankara a demandé non pas une annulation mais un report de la visite. L'hebdomadaire rappelle que dans le cas d'Incirlik, l'Allemagne a finalement décidé de retirer ses troupes début juin pour les transférer en Jordanie. Et contrairement à Incirlik, à Konya, les Allemands participent directement aux actions de l'OTAN. Ils font partie des équipages dans les avions de reconnaissance de l'Alliance contre le groupe État islamique. Aussi, cette fois, l'Allemagne devra tenir compte des répercussions d'un éventuel retrait de ses soldats pour ses partenaires de l'OTAN, estime la Süddeutsche Zeitung.
La presse se penche également sur les modalités de la sortie de la Grande-Bretagne de l'Union européenne.
Oui, le négociateur en chef de l'Union européenne, le français Michel Barnier, a annoncé la couleur lundi. Les deux camps enfin plongent dans le cœur du sujet. Pendant 4 jours, différents groupes de travail vont se pencher sur les premières priorités, droits des citoyens et solde des comptes, questions irlandaises ou encore l'adhésion à l'autorité de la Cour de justice de l'Union européenne. Il s'agit d'avancer, c'est précisément ce que les Britanniques souhaitent, souligne Die Tageszeitung. Selon le journal, l'essentiel est de passer à l'étape suivante. La Frankfurter Allgemeine Zeitung revient pour sa part sur le contexte même dans lequel ont lieu les négociations, rappelant que la première ministre Theresa May est sous pression depuis les dernières élections, sans oublier la guerre que se livre une poignée de ministres pour sa succession.
La revue de la presse allemande avec Carole Assillon.
Deutsche Welle, le sport. Sophie Serbini.
Et c'est officiel, à 41 ans, Francesco Totti a annoncé qu'il ne jouerait plus au football. Mais la légende de l'AS Roma a déjà trouvé un nouveau travail au sein de son club de cœur. Et c'est ce que nous explique Sophie Serbini.
Romain un jour, Romain toujours. Quelques semaines après avoir disputé son dernier match sous le maillot de l'AS Roma, Francesco Totti a annoncé qu'il allait intégrer l'encadrement de son club formateur. Pour le moment, les détails de mon rôle n'ont pas encore été précisés. En fait, je ne désire pas avoir un rôle vraiment précis, je veux juste devenir une personne importante pour le club et la Roma sait très bien ce que je veux faire, a déclaré dans un communiqué officiel l'ancien capitaine du club italien. Francesco Totti a disputé 786 matchs et inscrit 307 buts sous les couleurs de la Roma, où il avait fait ses débuts en 1993 à l'âge de 16 ans. Avant cette annonce officielle, celui qui fêtera ses 41 ans en septembre prochain avait été en contact avec le Tokyo Verdy pour une dernière expérience en D2 japonaise. Des rumeurs faisaient également état d'un intérêt du Miami FC, le club de MLS, entraîné par son ami Alessandro Nesta. Finalement, l'idée de n'avoir à jamais qu'un seul club dans toute sa carrière aura été la plus forte. C'est donc maintenant dans les bureaux de la AS Roma que l'on pourra croiser Francesco Totti. En NBA, le propriétaire des Houston Rockets, Leslie Alexander, a mis en vente sa franchise moins de 2 semaines après avoir prolongé le bail de James Harden pour 228 millions de dollars, soit le contrat le plus cher de l'histoire du championnat nord-américain de basket. En 1993, le businessman n'avait déboursé que 85 millions de dollars pour acheter la franchise. Sous ses ordres, Houston a remporté 2 titres de champion NBA en 1994 et 1995. À l'époque, les Rockets étaient emmenés par un certain Hakeem Olajuwon, considéré par beaucoup comme le meilleur basketteur africain de l'histoire.
Il est maintenant 17h30 en temps universel. Nous abordons la seconde demi-heure de ce rendez-vous. Voici d'abord le magazine Droits et Libertés de Sandrine Blanchard.